dans l'ordre que vous voulez, hein. Je pense qu'il n'y a pas de...
Moi, je passe un dernier, je veux... Non ?
Ouais.
Bonjour et merci d'être de participer en fait à ce débat. Donc en fait le thème d'Agora cette année c'est les espaces collectifs. C'est l'espace public. Donc comme l'explique Youssef Thomé, le commissaire de l'exposition, l'espace public c'est ce qui nous relie aux autres, ce qui nous rassure, ce qui doit nous représenter en fait un monde auquel on croit. Et dans le cadre de ce débat, nous on a choisi d'extrapoler cette notion-là, mais dans les structures collectives, c'est-à-dire qu'en fait il y a des structures de logement qui se développent, dans lesquelles on a des espaces collectifs, dans lesquels on a des projets participatifs. Et l'idée du débat, c'est de voir comment en fait ces projets ou ce type de structure permet de faire progresser, je dirais, l'individuel et d'accroître l'autonomie. Quand on parle d'autonomie, globalement, c'est classiquement, et pour faire des clichés, c'est gérer son budget, pouvoir s'assumer financièrement, construire son projet personnel. Mais c'est aussi l'apprentissage du vivre ensemble, l'apprentissage de l'initiative, la découverte des autres. Et nous verrons en fait comment les différentes expériences qu'on va vous présenter peuvent y répondre. En fait, il s'agit ici de montrer que l'expérience en fait, d'une certaine vie en communauté n'est pas incompatible du tout avec le désir d'indépendance que peuvent avoir des jeunes, je dirais, ou des moins jeunes, mais qu'au contraire, c'est plutôt un facteur de réussite dans tout ce qui va être vivre ensemble, connaissance des autres, ouverture sur le monde. Donc il s'agit de donner, c'est vrai que Agora c'est vraiment une manifestation autour de l'urbanisme et autour de l'architecture, il s'agit de donner ici des conceptions architecturales, des services ou des projets de vie qui facilitent les échanges et les initiatives des jeunes. Donc c'est donner effectivement quelques exemples. Donc à Bordeaux, c'est quelque chose qui est relativement important, et sur l'agglomération aussi, parce que pour vous donner quelques chiffres, il y a 75 000 jeunes qui habitent à Bordeaux, et en fait, les personnes qui sont dans la tranche d'âge des 15 à 29 ans, hein, 16-30 ans, pour faire plus court, plus simple, c'est un habitant sur trois. Donc il y a vraiment un habitant sur trois à Bordeaux qui est dans la tranche d'âge jeune. Il y a une forte augmentation en fait, du public jeune depuis une dizaine d'années, plus 10%. C'est notamment poussé par les effectifs étudiants. Il y a eu une croissance de 30% globalement des effectifs étudiants depuis une dizaine d'années. Mais c'est aussi poussé par les jeunes actifs, hein, plus 80% de jeunes actifs depuis une dizaine d'années sur Bordeaux. Donc quand on regarde plus précisément, on voit bien qu'aujourd'hui, on a quand même... pour les jeunes, en fait, quelques difficultés à s'intégrer, à s'inscrire dans la vie active, et avec un développement aussi des contrats précaires, 40% de personnes en CDD ou en intérim, un tiers des jeunes qui sont effectivement à temps partiel. Donc l'idée, c'est de voir comment ces modalités de logement-là permettent aussi de créer un cocon, de se poser, de se détendre, de s'exprimer dans un collectif. Et nous souhaitons valoriser voilà, ces différentes expériences. Donc on valorisera, et notamment on mettra en valeur l'expérience de Habitat Jeune Le Levin, qui est une association qui se situe en plein cœur de Bordeaux, près du musée d'Aquitaine, et qui nous indiquera comment elle s'est développée, comment elle associe les jeunes à la conception des espaces. Ensuite, le groupe Alliance et Territoires nous présentera plutôt une expérience tournée autour de l'insertion professionnelle des jeunes, comment un collectif, une résidence collective est aussi un facteur de réussite dans la progression du parcours professionnel. Et monsieur Lantôme du CUID nous présentera une expérience qui est plus en lien avec effectivement comment par un collectif, par un projet et un accompagnement social de pointe, on arrive à faire sortir des jeunes en errance, des jeunes de la rue, pour leur permettre en fait de se construire un projet personnel. Donc nous, on essaye ici de vous présenter les différentes éventails de situations de jeunesse et les structures qui peuvent y répondre. Donc en 2003 sur Bordeaux, il y avait 1300 logements qui étaient dédiés au public jeune. En 2013, il y en avait environ 1000 de plus. Donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été réalisées. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc l'idée, c'est vraiment de s'inspirer de ces expériences. Donc Isabelle Garcia, vous êtes directrice de l'association Le Levin à Bordeaux, donc une structure, enfin une résidence multisite avec environ 130 logements au total. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez nous décrire rapidement quel était le constat, le besoin, pourquoi vous avez eu le besoin de vous développer, de développer votre offre de logement dans Bordeaux, et comment vous avez associé les jeunes à la conception des espaces.
Alors bonjour à tous, une petite précision, je ne fais pas du tout partie du groupe SILSO comme ça a été annoncé tout à l'heure. Notre association fait partie d'un réseau qui s'appelle l'Union nationale pour l'habitat des jeunes. Par rapport à l'ensemble des associations qui adhèrent à ce mouvement, nous sommes propriétaires de nos locaux, ce qui est assez rare, et nous gérons en direct 60% de notre patrimoine. Moi, j'ai été embauchée dans cette association en 2005, c'est pour l'histoire, pourquoi on a plus de logements aujourd'hui. Il y avait un établissement de 68 chambres, et j'ai été embauchée pour vendre l'établissement qui est en hypercentre, qui était un ancien hôtel particulier, qui fait à peu près 2200 m² habitable, avec un jardin de 500 m² en hypercentre entre Victoire et Péberlan, pour construire un projet en extérieur sur la ville. Une fois que j'ai commencé à cogiter ce projet, je me suis rendu compte que ça paraissait un peu incohérent, puisqu'on était en hypercentre, proche de tous les services, les transports et aussi des bassins d'emploi, et je ne comprenais pas pourquoi la commande était de partir en extérieur. Donc j'ai essayé d'argumenter et de collecter de l'information aussi auprès des jeunes et des professionnels, et nous avons réussi à faire voter un autre projet en fait auprès du conseil d'administration, qui a été au contraire de rester en hypercentre, mais par contre de développer de l'offre en hypercentre. En 2005, quand je suis arrivée, on traitait environ 500 demandes de logement par an. Aujourd'hui, on en traite 2400, en sachant qu'on répond à l'ensemble des personnes qui font une demande de logement. Ce qu'on a essayé d'améliorer sur Bordeaux et la Cube, avec tous les foyers de jeunes travailleurs Habitat Jeune de Bordeaux et la Cube, c'est d'avoir un seul formulaire. Donc les jeunes peuvent faire en un seul clic un seul formulaire qui va faire une demande dans tous les Habitat Jeunes de Bordeaux et la communauté urbaine. Ce qui permet aux jeunes de ne pas faire à chaque fois une demande, de retéléphoner à chaque structure. Voilà. Ensuite, donc nous nous sommes lancés dans deux opérations d'acquisition-amélioration. On a eu beaucoup de chance. Nous avons trouvé deux immeubles très très proches de l'unité centrale, une à environ 45 mètres et l'autre à 85 mètres. Le ciel est avec nous, on a pu acquérir ces immeubles et faire les travaux et donc créer 47 logements entièrement neufs de type T1, T1 prime, T1 bis et T2. Ces logements sont donc reliés à une unité principale où il y a tous les services et il y a des jeunes présents qui vont pouvoir vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et la dernière question qui était comment associer les jeunes à ces projets. Eh bien voilà, moi je suis mère de famille, tout ça, je crois savoir des trucs. Je me suis dit, ça c'est facile, la peinture on va la faire telle couleur, les studios c'est forcément comme ci, comme ça, il faut un lit dans ce coin-là, etc. Et puis en fait on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les projets, ça paraît un peu bizarre que ça soit qu'une seule personne ou une petite équipe qui décide de tout ça. Moi, je n'étais pas du tout issue du milieu du logement. J'ai toujours travaillé dans le milieu socio-éducatif. Mais là, je me suis dit, il va peut-être falloir créer un outil ou quelque chose, une démarche qui pourrait nous aider à co-construire nos projets. De là est née la démarche Jeune Architecture, à laquelle nous avons associé la participation d'Arc en Rêve, qui est présent ici. Et depuis, en fait, 2010, nous travaillons selon cette démarche pédagogique qui associe les architectes, les futurs usagers et les professionnels de l'association et aussi les administrateurs. On essaie aussi, par la même occasion, de former des directeurs logements de villes de la communauté urbaine pour lesquels leur commune va, par exemple, créer un habitat jeune. Voilà en quelques mots.
Merci. Patrick Marquet, vous êtes architecte associé à Acte Architecture. Vous êtes le concepteur du 64, rue Paul-Louis-Land, donc environ 37 logements créés. Donc nous, ce qui nous intéresse, là, que vous nous décriviez rapidement, prenez le temps qu'il vous faut, hein, l'idée c'est de, dans votre acte de créer, nous indiquer rapidement quel est le bâtiment, quelles étaient les contraintes, Et comment vous avez conçu des espaces pour que les jeunes y passent, aient envie d'y aller, aient envie de s'y retrouver? On veut avoir voilà, quelques exemples concrets sur les configurations, les équipements.
Vous voulez tout savoir, en fait.
On veut tout savoir.
Bon. Alors, bon, ben, je vais déjà vous parler du bâtiment. Le bâtiment, c'est un bâtiment ancien, 19e siècle, situé en cœur de ville. Donc, grosso modo, c'était un bâtiment qui était destiné au logement d'un chanoine qui était au milieu d'un couvent. Et puis, il s'est transformé en lieu de réception, enfin de traitement des jeunes filles mères par les sœurs. Et après, il a été racheté par le ministère de la Justice pour en faire le tribunal des enfants. Et enfin, il s'est transformé en squat pendant quelques années. Donc, grosso modo, on avait des murs, un toit qui fuyait, quelques planchers, des gravats, et voilà. Et donc, moi, j'avais un maître d'ouvrage qui m'a dit, ben, là-dedans, il faut faire 32 logements et des parties communes sur un petit peu le modèle du navire amiral, on va dire, du Levain, qui est au 33, et avec des chambres des espaces communs vivants. Donc, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le rouage de la programmation, parce qu'en fait, ça va vous aider à comprendre l'astuce de Madame Garcia. Donc, en fait, grosso modo, il y a un gestionnaire, donc le Levain, qui bâtit un cahier des charges idéal. Et ce cahier des charges idéal, il est donné à celui qui réalise le bâtiment, ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, c'est celui qui le finance. Et donc, lui, avec sa sensibilité, avec ses problèmes particuliers, son budget, il bâtit un programme. Et ce programme, il le donne à l'architecte, il lui dit, voilà, bâtis ton projet maintenant. Et donc, en général, ce projet... Ce projet ne répond pas forcément tout à fait à la demande initiale. Et donc, c'est là où Madame Garcia a été astucieuse, c'est qu'avec sa démarche jeune, elle a réussi à chanter, à contrecarrer cette problématique récurrente. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre en avant, elle a mis en avant et sous les projecteurs les jeunes. Et par cette démarche, elle leur a posé la question toute simple. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Et donc, aussi, elle a associé les deux architectes des projets. Et en associant les deux architectes des projets, nous, on a eu un retour d'information. Et ce retour d'information, pour nous, il est très important, capital. Parce que, en fait, nous avons le ressenti direct des jeunes qui habitent sur ce que nous concevons. Et alors, ça nous a fait évoluer le projet. Il y a des choses où on a été conforté dans notre fort intérieur en disant on a fait le bon choix, et d'autres qu'on a modifié, voire même abandonné. Donc, pour faire un petit historique, le Levain, les chambres du Levain, du Levain historique initial, sont un petit peu plus spartiates. Donc, en fait, il y a beaucoup d'activités en commun, notamment la cuisine. Et donc, la cuisine, tous les jours, on fait la cuisine ensemble et on mange ensemble. Et quelque part, ça crée un lien très important. Et l'inquiétude de Mme Garcia, c'était de perdre ce lien, parce qu'en fait, on allait faire des chambres vraiment bien équipé, et c'était vraiment son souci. Donc notre challenge, c'était de créer des parties communes suffisamment attractives pour sortir les résidents de leur chambre. Donc faire en sorte que les parties communes soient agréables, et un passage obligé pour que chaque résident soit tenté et ait l'envie d'y aller. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais on a hérité de nos ancêtres de la préhistoire plein de capteurs. Et ces capteurs donnent nos informations directement à notre cerveau reptilien. Et en fait, en l'espace de 3 secondes, on a des centaines d'informations qui arrivent à ce cerveau. Mais en fait, ces informations, elles chantent totalement la partie raisonnement. Donc, en fait... il faut donner les bonnes informations au bon moment pour qu'en 3 secondes, on sache si on est bien ou si on n'est pas bien. Donc, nous avons démultiplié les messages de bienvenue. Accueil clair et lumineux, transparence avec la terrasse extérieure, séquence de couleurs dynamiques à chaque fois qu'il y a un pôle d'intérêt, ouverture complète d'une succession d'arcades qui donne sur la terrasse jardin à l'arrière. Une transformation de la terrasse, parce qu'en fait, la terrasse était en contrebas. Donc, en fait, on ne se l'appropriait pas. Donc, on a remonté la terrasse de manière à ce qu'elle soit au même niveau que le bâtiment. Et du coup, on se retrouve, on se l'approprie tout de suite. C'est la terrasse du bâtiment. Donc, cet accueil, il faut penser que c'est la première image qu'on a la première fois qu'on vient. Et donc, La lumière, la couleur, c'est quand même pas si commun dans les vieux immeubles de Bordeaux. Quand vous arrivez dans un vieil immeuble de Bordeaux, c'est sombre, c'est étroit, c'est noir. Quand on arrive la première fois, on se dit, putain, ça c'est de l'accueil, super. Puis après, quand on regarde la terrasse, en général, à Bordeaux, c'est des toutes petites terrasses entourées de murs. Et là, on a l'œil qui est porté par une perspective et on partage les jardins de la halte garderie à côté et de la DRAC. Donc on est dans le cœur d'îlot. Donc quelque part, waouh, c'est quand même exceptionnel à Bordeaux. Donc voilà, donc maintenant qu'on a bluffé tous ces indicateurs préhistoriques, on va pouvoir rentrer dans le bâtiment et dans de bonnes conditions. Alors l'ensemble des espaces communs se situe en rez-de-chaussée parce qu'on a essayé de regrouper toutes les zones bruyantes, entre guillemets, ensemble de manière à limiter au maximum la gêne pour les étages. Donc il y a notamment un micro-cinéma, donc il est traité comme un vrai, hein, donc avec un grand écran, avec des vrais sièges cinéma, avec une couleur sur les murs, de manière à pouvoir avoir des soirées ciné, des soirées foot, des soirées sport. Après, il faut juste inventer la thématique. Après, vous avez aussi une très belle cuisine, une très grande et très belle cuisine. On l'a voulu magnifique. Parce qu'en fait, je ne sais pas si on la voit, parce qu'en fait, pour donner envie. Et dans cette cuisine, on peut cuisiner ensemble, on peut manger ensemble, on peut y inviter de la famille, on peut y inviter des amis. Il y a même, on l'a bâti un petit peu sur le principe de l'atelier des chefs. Il y a même des cours de cuisine qui sont donnés. Donc cette cuisine est vraiment un centre névralgique, on va dire, de ce cœur d'espace commun. Après, il y a des espaces un petit peu plus utilitaires, comme la laverie, avec le coin repassage, l'espace informatique. Donc la proximité de ces lieux fait que on lance une machine, on peut aller prendre un café sur la terrasse, on peut discuter, on peut faire de la cuisine, on peut aller voir un film. Donc c'est vraiment l'endroit, c'est le cœur vivant de l'immeuble. Et c'est là où on se croise, c'est là où on se rencontre, c'est là où on bâtit des projets, c'est là où on s'occupe de ses soirées. C'est même là où les murs parlent. Parce qu'en fait, avec un designer, ils ont fait des calendriers sur les murs avec les actualités du lieu, les actualités de la ville, les activités des spectacles. Donc, il y a vraiment toutes les informations qui sont là. Et donc, là, c'est vraiment le cœur grouillant et le cœur vivant du bâtiment. Après, on monte. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus zen. Il y a juste des couleurs pour la signalétique et juste au droit des ascenseurs où il y a des surlargeurs, en fait, on a une petite étagère avec des BD, des livres. On peut consommer sur place parce qu'il y a un fauteuil ou alors l'amener dans sa chambre. Donc voilà un petit peu, je dirais, la stratégie de nos espaces. Pardon, excusez-moi. De nos espaces communs. Donc cette organisation des parties communes, elle est bâtie sur un principe, le respect de chacun. Et en fait, elle a pour but de laisser à chacun le choix de venir, de venir rencontrer l'autre quand il en a envie. Mais c'est quand même une démarche un petit peu militante. C'est-à-dire que vous avez pu voir dans ce que je vous ai décrit qu'en fait, on a démultiplié à l'infini les possibilités de rencontre. On a donné un outil pour que les gens se croisent et fassent plus que se croiser. Voilà, et après, maintenant, on a donné l'outil à Mme Garcia et c'est elle qui le fait vivre. Peut-être que maintenant, on peut peut-être avoir un retour des jeunes qui y habitent.
On va effectivement leur poser la question. Oui. Et merci beaucoup. Là, vous avez bien décrit espace collectif, espace privé. On donnera après, effectivement, la parole aux résidents. Moi, je voulais. Il y a Monsieur Carniato à côté de vous qui est, lui, enchanté, l'architecte du 28 rue Paul Louis-Land, donc une plus petite structure avec beaucoup moins d'espace collectif. Petit, hein. 17 logements.
17 logements.
Voilà, exactement. 17 logements. Donc moi, je voulais, pareil, même s'il y a moins d'espace collectif, je crois que vous avez quand même réfléchi à tout ce qui pouvait être lieu de rencontre informel. C'est-à-dire qu'il y a des communs, il y a des cages d'escalier, ça peut être des lieux de rencontre informels. Nous, vous avez eu une réflexion autour de ça.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire ? Ce qui a été dit par mon frère avant, c'est difficile de passer derrière, parce qu'il a décrit tout le travail qu'on a fait exactement de la même façon. Mais ce travail en commun qui a été fait surtout avec, moi je pense, les utilisateurs et les futurs utilisateurs, tel que ça a été fait avec Arc en Rêve. en amont, c'était vraiment un travail qui était très précis. C'est-à-dire que ça nous a permis de trouver les outils communs pour déjà trouver un terrain de communication, parce que c'était pas simple. Nous, on a l'habitude de travailler avec notre vocabulaire d'architecte, avec un côté très élitiste dans notre démarche. Entre archis, on se comprend très bien. Trouver le bon vocabulaire pour qu'on arrive à échanger sur des gens qui nous ont donné juste le besoin, c'est-à-dire que la nécessité de ce qu'ils voulaient retrouver dans leur logement. Donc on a pu mettre ça en scène. Donc, effectivement, nous, notre structure étant beaucoup plus petite, on n'a pas d'espace commun. C'est-à-dire que puisqu'on est très très proche du 33, et ce qui fait qu'au 33, ils ont déjà une cuisine, ils ont tous les lieux de rencontre nécessaires, ils ont des espaces de rencontre que nous, on n'a pas pu mettre, enfin qu'on peut voir derrière. Et ce qui fait qu'on a plus travaillé, nous, sur la modularité du logement dans son intérieur et dans sa conception. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce que les gens souhaitaient trouver dans leur mode de logement et sur des aspects très, très personnels. Puisqu'on s'est rendu compte très rapidement que la majorité des logements qui étaient offerts n'offraient pas d'espace de personnalisation. Donc des espaces nécessaires pour accrocher des photos, pour mettre du mobilier personnel, pour retrouver des effets, si vous voulez, qui sont ce qu'on a l'habitude d'avoir dans notre maison, qu'on pourrait ramener et drainer dans son espace privatif, quoi. Donc ce qui fait que ça, c'est ce qu'on a essayé de mettre en scène. Et puis on a trouvé cette thématique, enfin ce que disait tout à l'heure Patrick, au niveau de la signalétique, qui est une signalétique commune aux trois opérations. Ce qui fait que les gens, effectivement, il y a des codes dans lesquels ils se retrouvent, ils ne sont pas perdus, quelle que soit l'opération, qu'il soit 28, au 33 ou au 60. Donc voilà, c'était la logique, si vous voulez, qu'on a essayé de mettre en scène. Un gros travail a été fait sur le mobilier et la modularité du mobilier, sur lequel, comme on avait des petits espaces, il fallait que les lits puissent être repliables, transformés en bureaux, transformés en espace de rangement. Ça, Mme Garcia s'y associe aussi. On a trouvé les financements nécessaires parce que souvent le mobilier coûte cher, je vais être très clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on trouve des choses modulaires, c'est très cher. Et tout le montage qui a été fait en amont, ce que j'avais déjà signalé, ce qui est important, c'est que c'est rare les démarches qui sont prises dès le départ par la maîtrise d'ouvrage, sur lequel on a une conception et que nous, on retrouve dans la réalisation en termes de travaux. C'est très rare pour être signalé, ça a été fait, ça a été réalisé, ça continue. Oui, il faut vraiment féliciter Mme Garcia.
Bon, merci Mme Garcia. Alors, maintenant la question, effectivement, c'est de savoir, bon, après 2 ans d'expérience, 2 ans de livraison, les jeunes y vivent dedans, ils sont rentrés, est-ce qu'ils s'approprient vraiment les lieux? Est-ce qu'il y a des initiatives qui se créent? Est-ce que selon vous, par rapport à du logement individuel, les jeunes en tirent une plus-value? Donc il y a des résidents, on va leur poser la question directement, je pense que c'est quand même plutôt à eux de répondre. C'était pas mis en scène, hein.
Alors, je me présente Leclerc Mathieu, donc ça ira. je suis menuisier de métier, résident depuis seulement 2 mois donc au foyer jeune Le Levin. La première impression déjà quand on rentre dans les lieux, c'est wow, en fait, c'est grand, c'est lumineux, c'est splendide, c'est accueillant. On a envie de rencontrer du monde, de voir d'autres jeunes. On peut aussi très bien rester chez soi et profiter de son intérieur, donc avoir vraiment son indépendance. Mais les lieux ne sont vraiment pas faits pour ça. Vous avez les deux logements, le 28 et le 64, qui sont un peu extériorisés, et le 33 vraiment au milieu, qui est la base finalement. On essaye vraiment entre jeunes de se retrouver dans le 33 pour échanger ensemble, pour partager des moments, pour profiter d'une terrasse, profiter d'une cuisine. Vraiment, en fait, c'est un espace d'échange. Après, l'avantage qu'on a aussi dans ces logements, c'est l'accompagnement. On a vraiment une équipe avec nous d'accompagnement qui est superbe. Donc, aussi bien sur les activités que sur, sur la mise en place professionnelle, sur l'aide au quotidien, sur les aides sociales aussi, puisque bon, certains jeunes sont au chômage, d'autres sont salariés, etc. Donc on a vraiment une équipe qui nous accompagne tout le long de nos 2 ans en fait, dans le foyer. C'est très agréable et ils sont très professionnels, très très professionnels. Voilà. Après, quand vous rentrez donc, dans la partie 64, vous avez vraiment un dynamisme, c'est-à-dire que vous finissez votre journée, vous êtes fatigué, etc. C'est de la couleur, c'est des espaces ouverts, c'est beaucoup de luminosité. Vous rentrez là-dedans, vous récupérez de votre journée. Ça vous donne envie d'en refaire une deuxième, en fait. C'est pas simplement un logement. Vous rentrez chez vous, vous avez tout votre confort. Et, enfin, c'est difficile à expliquer comme ça, Mais c'est vraiment une vie particulière et beaucoup de plaisir. Et en tout cas, bah, merci beaucoup.
Bon, bah, y a une grande joie, a priori, à habiter chez vous. Hein. Moi, je voulais savoir, parce que je vois qu'il y a quelques... Ah, pardon.
Voilà, on fait passer le micro.
Ah oui.
Donc, bonjour, je m'appelle Felicia Ndoyo. Je suis auxiliaire de vie et sapeur-pompier volontaire. Ça fait un an et demi que je suis au Levain. Et avant, j'étais au 33. Et comment dire, j'avais pas eu d'appartement avant, ni rien. Donc pour moi, c'était vraiment rentrer en quelque sorte dans la société, la vie active. Et l'équipe du Levain a pu m'accompagner merveilleusement bien dans cette tâche. Voilà, c'est ça. En fait, là, il parle pour moi. Ça m'a permis, grâce à l'aide des animateurs, tout ça, de construire mon projet, d'évoluer, de grandir. Et puis après, j'ai pu gagner le 64. Et d'aller vers mon autonomie, me gérer. Au départ, ça n'a pas été très facile, mais j'arrive bien maintenant. Et puis, ces espaces, ils sont super, quoi. Enfin, moi, j'ai ma chambre et elle donne sur la terrasse, quoi. Je peux faire des apéritifs, des choses comme ça avec mes amis. Mais sans alcool, bien sûr, hein. Et, enfin, voilà.
Merci beaucoup.
Et après, donc, oui, je suis aussi déléguée. Et des résidents, voilà, donc ça crée du lien. Enfin, entre nous, on va vers les autres jeunes, on leur pose des questions, voir ce qui leur plaît, ce qu'ils aimeraient faire. Pour les repas aussi, on peut choisir une idée de menu. Si ça branche les autres jeunes, et ben, ils viennent et on partage un repas ensemble. On a créé une salle de sport. Donc ça aussi, ça crée du lien. Voilà, et ça entretient un état mental et physique. En fait, qu'on est fatigué de sa journée, on vient se défouler, on rencontre d'autres personnes. On voit d'autres gens qui nous apportent des choses et qui nous remobilisent, en fait. Donc merci au Levain. Ouais, ces architectes.
Merci, un troisième petit témoignage, non? Bon, un petit... Alors, un premier ressenti.
Oui, c'est ça. En fait, ça fait à peine deux mois que je suis à Bordeaux et au foyer du Levain. Avant, j'étais dans un autre foyer de jeunes travailleurs à Belfort. C'est un peu loin d'ici. Et puis... Ça, la première chose que j'avais remarqué, c'est que c'était très différent. Là, c'était encore... on avait un espace en commun, donc on pouvait communiquer avec les autres. Et puis, il y a pas mal d'autres... Il y a plein d'activités. Donc, par exemple, dans la semaine, il y a des ateliers cuisine. Des fois, on organise des soirées cinéma. Donc, il y a encore plus de contacts avec les autres résidents. Et franchement, ça m'a plu. Ça, c'est très différent par rapport à là où j'étais avant. Merci.
Bon, merci beaucoup. En termes de timing, on va passer à la deuxième présentation. Donc, Madame Bénédicte Corbière, donc vous faites partie du groupe Alliance et Territoires. Des filiales de votre groupe, en fait, comme Clairsienne et Domofrance, développent des résidences de logements temporaires plutôt pour des jeunes salariés, avec un certain nombre de services autour, d'aides notamment financières. Vous avez un petit film, peut-être on pourrait le lancer maintenant, et puis après peut-être revenir dessus. C'est possible de le mettre, petit film de 3 minutes pour vous présenter en fait les différents produits développés par le groupe Silso.
Le groupe Alliance Territoire accompagne les jeunes dans leur entrée dans la vie professionnelle. 1120 logements étudiants en patrimoine et 669 réservations en résidence sociale. 315 logements étudiants et 274 réservations livrées d'ici 2016. Le groupe Alliance Territoire finance et construit des logements dédiés aux jeunes. Parce que l'innovation constitue un enjeu pour l'avenir, le groupe Alliance Territoire la valorise sur des projets pour les jeunes. L'offre d'Alliance Territoire s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans, étudiants, en formation professionnelle, en situation de premier emploi. Le groupe Alliance Territoire met à disposition des jeunes un ensemble de services qui facilitent l'entrée dans la vie active. Une subvention de 10 à 100 euros pour aider à financer son loyer, des aides locatives pour payer le dépôt de garantie ou garantir le paiement de son loyer, un accompagnement et une aide financière pour faciliter la mobilité des jeunes actifs. Le groupe Alliance Territoire propose des solutions de logement sur tous les territoires et une réponse adaptée à toutes les situations, offres locatives et accession. Des résidences Move Access, pour un hébergement temporaire, des résidences hôtelières à vocation sociale, pour les étudiants, des résidences à proximité des universités. Le travail saisonnier est facilité avec des résidences dédiées. Des solutions de colocation sont développées. Relevez le défi de la réussite des jeunes en conjuguant logement et emploi. Un enjeu pour l'avenir, un enjeu pour le groupe Alliance Territoire.
Donc Madame Corbière, là on vient de voir une présentation rapide mais assez synthétique des différentes résidences, des services que votre groupe propose, Alliance et Territoire. Moi je voulais savoir en fait voir comment ces services combinés ensemble sécurisent les parcours des jeunes, quelle est la plus, comment les entreprises vous sollicitent, quelle est la plus-value pour elles et pour leurs salariés. Voilà, est-ce qu'on se sent moins isolé? Est-ce qu'on a plus de chances de réussir son parcours professionnel quand on est dans ce type de structure? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Alors peut-être préciser que en fait, la volonté du groupe Alliance Territoire au travers du CIL et de ses filiales, c'était effectivement de répondre à d'abord une situation qui est constatée sur tout le territoire français, hein, à savoir que les jeunes actifs de moins de 30 ans ont des parcours professionnels compliqués, ont des difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle, notamment parce qu'ils ne trouvent pas de logement pour accéder à l'emploi. Donc on se rend bien compte que le logement est une clé pour accéder à l'emploi, notamment pour tous les alternants ou apprentis qui parfois ont une école sur une ville et puis une formation sur une autre ville. Nous étions sollicités par les entreprises, hein, clairement depuis de longues années maintenant, pour essayer de créer une offre qui soit financièrement accessible et compatible avec ces débuts de parcours professionnels qui sont normalement, je dirais, assortis de très faibles ressources pour les jeunes que nous rencontrons. Pour vous donner un ordre d'idée sur les chiffres que vous donniez tout à l'heure sur les jeunes apprentis, par exemple, on a formation professionnelle ou apprenti pour les premières années de ces jeunes-là, c'est une moyenne de salaire de 550 euros par mois. Donc on peut comprendre qu'avec une offre immobilière, surtout en zone tendue, très très peu accessible, il faille bâtir une offre adaptée à ces budgets-là pour que d'abord le jeune puisse accéder à la formation professionnelle, puisse signer un contrat avec une entreprise. Et puis finalement, comme tout le monde, hein, quand on se sent bien dans un logement et qu'on n'a pas de soucis de logement, on est peut-être mieux dans son travail aussi. Les entreprises y sont très sensibles et nous sommes sollicités très couramment, hein, par des employeurs qui nous demandent de réagir vite pour éviter de perdre parfois du personnel qualifié, des jeunes qui ont envie de faire, mais qui ne peuvent pas finalement réaliser leur projet. Donc la marque Move Access que le groupe Alliance Territoire a racheté l'année dernière est une marque qui avait été créée par un réseau de CIL auquel nous appartenions lorsque nous étions encore SILSO et qui a été fait pour s'adapter à ces situations-là. Donc la réponse, c'est de se dire il faut construire en cœur de ville, ça c'est sur des, je dirais c'est stratégique, des logements temporaires. Déjà pour répondre à ces séjours fractionnés que peuvent subir, je dirais, les jeunes du fait de leur formation, temporaires, équipés, meublés, proches de tout ce qui est transport, loisirs aussi, parce que c'est quand même une préoccupation, et qui soient surtout de qualité. Donc, la dominante financière est importante, on en parlait. Le Alliance Territoire accompagne non seulement, une fois que le jeune est dans le logement, on ne donne pas que le logement. On l'accompagne avec des aides à l'accès à ce logement locatif, à cette première étape, ce logement passerelle. On l'aide à financer son dépôt de garantie. On se porte garant pour lui. Les jeunes ont aussi beaucoup de mal, finalement, à trouver des garants solvables quand ils sont dans le parc privé. Là, le CIL s'engage à payer les loyers en cas d'impayé et en même temps s'engage à accompagner le jeune pour que cette situation ne s'enlise pas. Nous offrons également, afin de solvabiliser le jeune et de lui permettre aussi d'avoir de quoi tout simplement faire ses courses à la fin du mois, hein. Nous avons une aide qui s'appelle l'aide mobilise jeune, qui est en fait à l'attention des apprentis alternants et qui permet de prendre en charge par voie de subvention une partie de la redevance qu'ils vont payer. Donc ces jeunes ont déjà un loyer très abordable. On est sur des loyers qui sont à 376 € jusqu'à, je crois que le plus cher pour les plus grandes surfaces, on est à 475 €. Là-dessus, ils ont droit à une APL, c'est tout compris. Ils n'ont rien à débourser de plus, ils ont droit à une APL. Et sur ce qu'il leur reste à payer, pendant toute la période de formation, on peut leur apporter jusqu'à 100 € par mois de subvention. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont rembourser. Une subvention, c'est... Voilà. Donc, on arrive à avoir des petits jeunes qui, sur un loyer à 376 € n'ont plus rien à payer à la fin du mois. Ça leur permet quand même aussi de vivre mieux. Et d'être mieux de leur emploi. Je veux dire, voilà. S'il n'y a déjà pas de. Pour ceux qui doivent assumer deux logements, un sur Paris, un sur Bordeaux, c'est parfois difficile. Hein. Il faut essayer d'être accessible là-dessus.
Alors, Madame Corbière, il y a une résidence, la Move Access, de 30 places qui va ouvrir cours Édouard Vaillant 29. À Bordeaux, 29, voilà, près des bassins à flot, normalement en octobre. C'est des anciens chais qui ont été rénovés, réhabilités. C'est assez beau, c'est assez valorisant. Comme vous le disiez, c'est important de vivre dans un endroit où on a envie d'entrer, où on a envie de rencontrer du monde. Vous pouvez nous décrire rapidement ce lieu, ce projet, en quelques mots ?
Alors, c'est un projet qui est situé cours Édouard Vaillant, donc, tout au haut du cours Édouard Vaillant, donc juste à côté du tramway, ce qui est très important pour les jeunes que nous accompagnons, parce que le transport aussi, c'est une contrainte. Ce sont d'anciens, le projet qui a été confié à l'architecte, c'était notamment par la ville de Bordeaux d'ailleurs, hein, c'était de conserver dans ce bâtiment 19e qui était d'anciens chais, d'anciens entrepôts, de conserver, j'irais, la mémoire de Bordeaux avec ses anciennes activités portuaires et industrielles, conserver ce lien en conservant la façade, les façades, parce que ça donne sur deux rues, et en valorisant justement ce passé architectural. L'architecte en a fait quelque chose de très réussi. Il a en fait, il avait une contrainte, c'était que le bâtiment en fait était encerclé par d'autres bâtiments et il était traversant. Donc il a réussi à faire une sorte de venelle. En fait, en travaillant sur le chantier, il a trouvé une ancienne venelle qu'il a reconstituée. Et cette venelle, en fait, traverse le bâtiment, est toute végétalisée, dessert les logements de jeunes qui sont extrêmement clairs. Il a réussi, en ouvrant en fait les toits, à faire venir de la lumière là où finalement la contrainte, c'était plutôt au départ quelque chose d'assez sombre. Et il a réussi aussi, il nous a suggéré, et ce qui a été accepté par tous, c'était de dire, bon, une résidence jeune, c'est bien, mais ce serait bien aussi de partager ces logements, cet espace de vie, avec des logements familiaux. Donc, en fait, dans ces anciens chais ont été divisés en deux. Et d'un côté, on retrouve les logements jeunes actifs. Et de l'autre côté, on a 12 logements familiaux qui permettent aussi à ces jeunes qui ont un début d'autonomie de cohabiter avec des gens qui ont des vies plus installées. Le projet aussi, dans ce qu'il a d'original, c'était de proposer, même si ce sont des jeunes qui ont déjà un emploi, c'est de leur proposer un accompagnement social s'ils en avaient besoin et s'ils le souhaitaient, avec une salle commune, un travailleur social qui vient une fois par semaine pour les accompagner dans toutes leurs démarches, faciliter leurs démarches administratives. Donc là aussi, on peut penser que des jeunes qui travaillent ont déjà des informations, ce n'est pas toujours le cas. Il va faire leur déclaration d'impôt, monter leur dossier d'APL et puis aussi veiller à ce que l'appropriation du logement se passe bien et nous faire un petit signal d'alerte si on a besoin d'un accompagnement social plus important.
Merci beaucoup pour cette description. On l'a bien vu, en fait, les situations de jeunes ne sont pas toutes les mêmes, elles sont relativement hétérogènes. Et Monsieur Lantôme est là effectivement pour en témoigner. Là, on a vu, vous nous avez décrit des résidences, des structures qui accueillent plutôt des jeunes qui effectivement sont dans un parcours professionnel, étudiants, jeunes en formation. Monsieur Lantôme, vous travaillez au CUID, vous travaillez sur la sortie de rue de jeunes en errance. Il y a une structure qui a été mise en service, livrée, il me semble, il y a un an. Environ, du côté de Santé Navale, pas loin dans le quartier de la gare, enfin pas loin. Est-ce que vous pourriez nous décrire globalement ce projet ? Quel public ? Quels sont vos publics ? Comment vous allez les chercher ? Quel projet collectif vous mettez en place ? Quel accompagnement et l'impact que ça a sur la création d'un effet de groupe pour ces jeunes ? Et puis nous décrire peut-être un peu ce qu'est le CUID aussi, en quelques mots.
Oui, bonjour.
J'ai beaucoup de chance.
Petite pause de 30 secondes.
Voilà. Bonjour, Yves Lantôme, je travaille au CUID, je suis éducateur de formation et coordinateur d'une action qui s'occupe de jeunes en errance, de jeunes qui sont à la rue. C'est une action qui date de maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, qui a été un peu commandée par les services de l'État, le département par le CG et la mairie de Bordeaux, à savoir qui sont les jeunes qui sont à la rue avec les chiens, qui font la manche et qui sont sans domicile fixe, qui sont-ils, combien sont-ils, que veulent-ils et que font-ils. À ce niveau-là, on a travaillé avec une collègue qui travaillait, elle, au CUID à l'époque. Moi, j'étais plus en prévention sur ces jeunes-là. On les croisait dans l'espace public et ils étaient beaucoup plus regardés sous le regard de la nuisance publique que d'autres. Voilà. Donc, on a un peu été à leur rencontre. C'est-à-dire que c'est notre travail. On va dans la rue, à l'encontre des jeunes, pour signaler qu'on est là, qu'on a peut-être des solutions, on discute avec eux pour savoir ce qu'ils veulent. On les oriente vers nos services qui sont pour beaucoup une douche, un médecin, une machine à laver. Et à partir de là, avec eux, on construit un projet. On s'appuie pour cela sur une salle qui nous a été prêtée par la mairie trois après-midi semaine, où on dispense des cours d'art de la rue. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les arts de la rue, théâtre, cirque, musique, pour construire et bâtir avec eux un projet. Café offert, plage internet, toujours un travailleur social, et puis une personne qui est issue du monde des arts et du spectacle, qui est là pour leur enseigner. Alors l'idée de départ, c'était de passer de la manche passive au chapeau actif, c'est-à-dire comment on peut proposer autre chose que simplement tendre sa civile, et puis essayer de proposer quelque chose, c'est-à-dire à quoi je peux servir sur cet espace public, qu'est-ce que je peux proposer aux passants. C'est un projet complètement global qui comprend effectivement un travail de rue, la gestion de cette salle. Et on s'est aperçu très vite que le problème qui était dominant, c'était le manque de logement. Comment à un moment donné proposer à des jeunes de sortir de leur galère sans leur proposer de pouvoir habiter quelque part. C'est-à-dire être propre, se laver, pouvoir dormir en toute sécurité. Donc on a pensé à un moment donné à comment on pouvait... On travaille aussi sur les squats et donc on a bien vu comment s'organiser ces espaces qui sont et collectifs et individuels, enfin qui se veulent un peu collectifs et individuels, en sachant que quand on sortait un jeune de cet espace de rue ou d'espace de squat, on se retrouvait face à deux grosses problématiques, deux grosses difficultés. Un, c'était l'isolement, c'est-à-dire qu'un jeune qui sort de la rue, il est en général rejeté par ses pairs. Et deux, c'était le squat du logement qu'on lui proposait. C'est-à-dire, il sort... Effectivement, quand je sors de la rue, j'ai toujours tendance à vouloir aider les autres qui sont dans la même galère que moi. Et donc, je les invite. Et donc, effectivement, on perdait très vite les logements qu'on proposait à ces jeunes et des fois les jeunes aussi. Donc le CVD qui chapeaute notre action est une association qui s'occupe de toxicomanie. Toxicomanie dans le soin qu'elle peut apporter aux toxicomanes, mais aussi tout le programme d'échange et de substitution. Nous, petite équipe de 2 et maintenant 3 personnes, on travaille sur la marginalité et l'espace de rue, c'est-à-dire tous les jeunes qui sont à la rue. Jeunes qui sont entre 18 et 25 ans, puisque c'est la dénomination jeunes majeurs, c'est comme ça que le Conseil général nous finance, pour ça qu'on finance. Et effectivement, quand on travaille sur les espaces communs de la rue, on travaille sur l'ensemble de la population qui est dehors. C'est-à-dire, on ne va pas s'arrêter sur un groupe en disant, ben, toi, tu as plus de 25 ans, on ne te prend pas en charge. Mais bon, pour tout ce qui est proprement dit du travail sur la mise en appartement, ce sont des travaux sur ce public-là.
Alors, monsieur Lantôme, est-ce que ça fonctionne, les 10 logements, est-ce que les collectifs, ils arrivent à retrouver une solidarité, un effet de groupe? Est-ce que c'est ce que vous recherchez?
Voilà, on a ouvert, donc, après maintes et maintes rencontres, il y a eu, après les Don Quichotte qui ont effectivement, à un moment donné, éclairé le CVD comme étant les personnes, les éducateurs de rue qui étaient le plus en contact avec ces publics jeunes. Les services de la préfecture nous ont demandé s'il y avait un projet. Notre projet comprenait effectivement un sas d'appartement. C'est-à-dire qu'on pensait la mise en appartement sous 3 phases. Le phasage est important parce qu'on sort de la rue, pas directement dans un logement individuel et autonome. Si le sas que propose Prodomo dans cette petite structure de 10 places, effectivement c'est une toute petite structure de 10 places, on en pensait un peu plus. C'était une structure qui s'appuie sur les constats de squat, c'est-à-dire à un moment donné, comment gérer le collectif et l'individuel. En sachant que pour tout un chacun, nos relations futures, on les noue dans notre quartier et aussi dans les écoles que l'on fréquente. Pour eux, c'est effectivement la rue. Et donc sortir de la rue, c'est aussi se sortir et se couper complètement de son milieu. Et donc de se retrouver très vite isolé. En sachant que pour beaucoup, ils ne peuvent pas rejoindre leur milieu familial qui est effectivement déficient. Donc cet espace de 10 places propose des logements, enfin, des chambres. On pensait des appartements, mais vu les difficultés financières, on a des chambres individuelles où on peut arriver avec son chien, son copain. Voilà. On prend en charge aussi l'aspect l'aspect sentimental, l'aspect couple, l'aspect... aussi vie sexuelle et vie affective. Et comme ce sont des jeunes qui viennent de la rue, ils sont très souvent accompagnés d'animaux, ce qui les met en porte-à-faux dans tout ce qui est accès à des logements traditionnels, sociaux.
Alors, vous nous disiez lors de la préparation de ce débat que les espaces collectifs, effectivement, il y en a. Il y a des chambres aussi qui ont été conçues, mais pour vous, tout n'est pas optimal. Je pense que c'est bien aussi de mettre l'accent là-dessus, parce qu'on voit bien que dans certaines structures, les jeunes ont vraiment été associés à la création des espaces collectifs et ça fonctionne. Qu'est-ce qui manquerait et après un an de fonctionnement, qu'est-ce que vous pensez qui a amélioré en termes d'espace commun?
Voilà, nous, on a une toute petite... c'est des anciens bureaux qui ont été remis... qui ont été réaménagés pour mettre des espaces de vie. Donc on a un tout petit espace de vie commune, c'est-à-dire on a une petite salle commune de réfectoire, enfin de restauration, et une toute petite cuisine qui fait, je sais pas, doit faire 2-3 mètres carrés, pas plus. Enfin, c'est un petit réduit où on fait à manger. Mais malgré ça, on arrive quand même, les éducateurs sont là pour essayer d'enclencher une dynamique collective, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, de proposer une réunion de maison et de proposer un repas collectif. En dehors de ça, il y a la buanderie qui est commune et par contre, on manque d'espace extérieur. C'est-à-dire qu'on est très vite confiné dans le lieu et donc les jeunes pensent à sortir. Ce qui est aussi assez difficile pour avoir une gestion de groupe et puis quelque chose d'un travail en groupe. Donc c'est vrai que le lieu n'est pas très adapté et il demanderait effectivement quelque chose d'un peu plus grand avec un lieu extérieur qui puisse, où on puisse gérer les animaux et puis aussi... La vie du groupe, quoi.
Merci beaucoup. En fait, dans vos différentes présentations, on voit bien que dans, dans ces expériences, on est un peu à la croisée de deux représentations, celle qu'ont les adultes du logement des jeunes et ce qu'ils voudraient concevoir sans forcément, in fine, leur donner à la parole, quitte à faire des choses qui ne sont pas totalement adaptées. Et puis la vision qu'on peut avoir les jeunes du logement, parfois, voilà, logement idéal, grand logement, et puis le rôle qu'ont les adultes et l'accompagnement de les ramener au principe de réalité. Et ça, c'est intéressant. Puis là, ce que vous nous avez mis vraiment en avant, c'est l'association des futurs usagers à la conception. Et on voit bien que c'est vraiment un enjeu pour éviter d'utiliser notamment l'argent public, puisqu'il y a quand même des structures qui sont financées avec des financements publics, inutilement, de faire des espaces collectifs qui ne seront pas utilisés. Donc il y a vraiment tout un intérêt à avoir ce travail de conception, de réflexion. En amont, donc je voulais vous, avant peut-être de passer la parole pour avoir quelques questions, je vois qu'il y a, quelques architectes, il y a des professionnels aussi dans la salle. Où est-ce qu'ils peuvent trouver un memento des espaces, un retour d'expérience sur ce que vous avez fait, s'en inspirer pour des projets qu'ils auraient amenés? Est-ce qu'il y a des...
Alors nous, on a édité une première plaquette qui s'appelle Jeune Architecture Acte 1, il suffit de nous la demander, on vous l'offre gentiment, et devait paraître aujourd'hui, mais l'imprimeur a décalé de 2 jours, donc ça sera la semaine prochaine, l'acte 2 de Jeune Architecture qui résume le travail de l'association des usagers sur la future réhabilitation du 33 rue Paul-Wieland. Par ailleurs, est inscrit aussi à l'intérieur la façon de voir le travail des professionnels aussi à l'intérieur de ces établissements. Et ça, c'est regroupé dans l'acte 2, qui paraît mercredi, en fait. Voilà. Donc, il suffit de nous demander. On le mettra en ligne aussi, mais pas tout de suite. Et voilà.
Quelques questions? Des réactions?
Juste une dernière petite chose.
Monsieur Lantin.
Cet espace public que nous partageons tous, qui était effectivement avant d'une ville qui n'était pas, enfin d'une ville, des villes qui n'étaient pas entièrement occupées par une population, il y avait des espaces libres qui ont tendance à disparaître. Moi, je voyage pas mal et aussi pour mon travail avec d'autres équipes européennes, il y a des espaces qui étaient des espaces squattés, qui étaient des espaces habités de façon illégale, mais où les jeunes pouvaient mettre en place des expériences qui ont tendance à disparaître maintenant avec cet accroissement des travaux et d'identification. Donc tous ces espaces disparaissent et on demande, nous, professionnels, de mettre maintenant, de rechercher, de recréer ces espaces-là, pilotés par des équipes éducatives. C'est quand même une problématique qu'il faudrait un peu penser parce que les espaces disparaissent et l'espace urbain va devenir tout sauf un endroit où la jeunesse va pouvoir se développer et trouver et créer ses expériences. C'était une petite réflexion.
Bon, mais merci, vous êtes dans le thème en plus, espace public, donc on est bien dedans. En tout cas, moi, remerciement. Monsieur Lantôme, merci beaucoup de nous avoir présenté votre expérience, parce que je pense que ça permet aussi d'éclairer sur les différentes situations de jeunesse, de dédiaboliser certaines choses. Merci Alliance et Territoires pour vos expériences et puis votre développement. Et puis Habitat Jeune Le Levin, je pense, merci beaucoup. Et puis je tiens à votre disposition, a priori, pour vous donner un peu des tuyaux sur comment on associe les publics à la conception des espaces. Puis merci à vous, les résidents du Levin, pour vos témoignages. Merci à tous de nous avoir écoutés.